Alors, je voudrais consacrer cet enregistrement à un aspect important de la tradition, que sont les pères de l'Église. D'abord, il convient de faire une distinction importante entre un père de l'Église et un docteur de l'Église. On appelle père de l'Église des auteurs chrétiens des premiers siècles. Tous ne sont pas forcément reconnus docteurs de l'Église, d'ailleurs. Certains n'ont même pas été canonisés, par exemple Origène. De même, tous les docteurs ne sont pas pères de l'Église, puisque certains docteurs ont vécu bien après les premiers siècles du christianisme. Prenons par exemple Sainte Thérèse de Lisieux, qui a vécu au XIXe siècle. Mais malgré tout, il y a des critères assez précis pour définir ce qu'est un père de l'Église. Disons, si on s'inspire de Saint Vincent de Lérins, qui vécut au Ve siècle, lui-même père de l'Église, on peut retenir trois critères. D'abord, il faut que le père de l'Église soit un écrivain ecclésiastique. Il faut bien sûr qu'il ait écrit des choses en rapport avec Dieu et son Église. Il faut donc que ce soit un écrivain chrétien. Le deuxième critère, c'est le critère, disons, d'ancienneté. Généralement, on s'accorde pour dire qu'un père de l'Église est un auteur chrétien qui a vécu entre le 1er et le 8e siècle. Alors, par exemple, on s'accorde pour dire que les deux derniers pères latins sont Saint Grégoire le Grand, qui est mort en 604 après Jésus-Christ, et Saint Isidore de Séville, qui est mort en 636 plus exactement. Ensuite, du côté oriental, on donne, disons, comme point de fin Saint Jean Damasène en 749. Alors, il faut distinguer chez les pères de l'Église plusieurs phases. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les pères apostoliques. Ces pères ont vécu entre la fin du 1er siècle et la première moitié du 2e siècle. Ils sont fondamentaux parce que ce sont eux qui font le lien entre les apôtres et ce que plus tard nous appellerons la tradition. Alors, ces pères apostoliques sont extrêmement importants parce qu'ils sont des témoins privilégiés de l'enseignement des apôtres. Effectivement, ce qu'on appelle aussi tradition, et on en est bien peu conscient, dans les premiers siècles, c'est cette espèce de photographie que nous donne l'Église de l'enseignement de l'Église primitive et notamment des apôtres. Alors bien sûr, le Nouveau Testament est une photographie privilégiée, mais il existe d'autres photographies de cet enseignement des apôtres que sont les pères apostoliques. D'ailleurs, certains écrits des pères apostoliques ont été publiés parfois en même temps que certains écrits tardifs du Nouveau Testament. Alors, parmi ces pères apostoliques, les plus connus sont le pape Clément, on a aussi Saint Ignace d'Antioche et puis Saint Polycarpe par exemple. Ce sont la plus souvent des évêques, bon ici il y a même un pape, qui ont écrit des lettres magnifiques et qui sont morts martyrs. Et il est important de savoir que la tradition, c'est vraiment ce qui a donné naissance au Nouveau Testament, parce que très souvent on pense que l'enseignement du Nouveau Testament a été comme quelque chose de parachuté, qu'il faut croire aveuglément et que tout ce qui n'est pas en accord avec est à rejeter. Enfin, bien sûr, mais tout ce qui n'est pas explicitement mis dans le Nouveau Testament est quelque chose qui aurait été inventé par les hommes. Mais il faut savoir que le Nouveau Testament est le résultat d'une tradition orale, ce qui s'est fait sur quelques dizaines d'années. C'est l'Église primitive qui a d'abord prêché oralement et puis a décidé de mettre par écrit, disons, le principal pour ne pas l'oublier. Et à côté de ça, d'autres, comme Saint Paul, ont écrit des enseignements par rapport à l'enseignement des apôtres et de Jésus-Christ que nous considérons comme inspirés. Eh bien, à côté de ces auteurs du Nouveau Testament, nous avons des pères de l'Église qui ont connu les apôtres, qui ont donc eu l'occasion d'écouter leurs enseignements et qui eux aussi sont des témoins privilégiés. Et donc pour nous, catholiques, tout ce qui nous permet d'approcher l'enseignement de l'Église primitive, celle qu'ont façonné les apôtres, que ce soit le Nouveau Testament ou les pères de l'Église, pour nous tout est bon à prendre. Ensuite, nous distinguons, après les pères apostoliques, ce qu'on appelle les pères apologétiques ou apologistes. Alors ces pères apologistes ont vécu entre le 2e et 3e siècle. Eux, ils se sont efforcés de défendre la foi chrétienne contre des accusations bien injustes de l'Empire romain. On pensait notamment que les chrétiens étaient cannibales, ennemis du genre humain, etc. Et ils essayaient de présenter aux païens la doctrine chrétienne. Et à ce titre-là, leur enseignement est très précieux parce qu'il nous brosse un, un, comment dire, un tableau magnifique de la foi des premiers chrétiens, celle qui doit nous nourrir justement, celle qui est tout proche de la foi du Nouveau Testament, qui est bien loin de l'interprétation perverse et déviée des sectes. Alors, parmi ces pères apologistes, citons Justin, qui était philosophe et martyr, Tertullien, qui malheureusement, si j'ose dire, a mal tourné, puisqu'il a fini par être montaniste, c'est-à-dire qu'il a après rejeté l'Église, comme la considérant comme étant pas assez spirituelle à son goût. Mais il a écrit malgré tout des choses magnifiques. Alors, bien sûr, un des plus grands de cette période est Irénée. Irénée est vraiment le père de l'Église à lire quand on veut vraiment faire face à toutes les sectes modernes. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect qu'il vous faut retenir. Les pères de l'Église sont vraiment d'une actualité extraordinaire par rapport au New Age et à toutes les hérésies qui se font jour, Témoins de Jéhovah, New Age, beaucoup de choses comme ça. Je pensais aussi au Da Vinci Code, par exemple, ça Tertullien, pas Tertullien, Justinien, enfin non, Justin, excusez-moi. Justin aurait eu beaucoup de choses à dire pour présenter la foi chrétienne de manière exacte. Eh bien, cette présentation de la foi chrétienne de Justin, par exemple, est quelque chose de merveilleux, parce que lui-même visait à détruire toutes les calomnies et toutes les choses injustes qu'on disait, toutes les bêtises qui pouvaient se dire sur la foi chrétienne. Est-ce que ce n'est pas d'actualité, justement, quand on pense au Da Vinci Code? Maintenant, Irénée, pensons à Irénée, qui a écrit le traité sur les hérésies, ou contre les hérésies. Eh bien, ces écrits sont extraordinaires parce qu'ils nous dressent un panorama de la foi chrétienne, et notamment il a une réponse par rapport à tout ce qui est gnose, que l'on pourrait rapprocher maintenant du New Age, de l'occultisme, parfois même de certaines religions orientales. Eh bien, sa démonstration de la foi chrétienne peut nous aider vraiment de façon merveilleuse pour notre propre foi et pour, disons, répondre à toutes ces hérésies, à toutes ces nouvelles religiosités qui se font jour, mais qui ne sont pas si nouvelles finalement, puisque saint Irénée lui-même les a connues. Alors vous voyez cette actualité des pères de l'Église qui est assez extraordinaire et déroutante, parce que ces pères de l'Église, ces premiers chrétiens, on pourrait penser que leurs écrits sont périmés, et bien loin de là, bien au contraire. Et puis enfin, citons, on ne pourrait pas oublier, Origène, qui, bon, bien sûr, quand on connaît un petit peu l'histoire d'Origène, on sait qu'après l'Église a pris un peu ses distances, notamment parce que ses disciples ont poussé très loin, jusqu'à la déformation de l'enseignement du maître, l'origénisme. Mais Origène, on lui doit énormément, notamment dans les études bibliques et dans l'exégèse, et Origène, c'est vraiment celui qui nous montre une actualité de l'interprétation de Dieu que nous ferions bien d'imiter, parce que lui vraiment c'est le maître de l'interprétation spirituelle de la Bible, notamment ce qu'on appelle l'interprétation typologique ou allégorique. Et je crois qu'on ferait bien de se baser sur les écrits d'Origène pour interpréter certains passages de l'Ancien Testament. On serait quitte de tomber dans le fondamentalisme et de fermer la Bible en disant que c'est un livre qui ne vaut pas grand chose, parce qu'on se laisse très vite choquer par manque d'ouverture d'esprit. Donc voilà un petit peu un panneau que je voulais vous dresser des premiers pères de l'Église. Et puis après, nous avons 4e siècle jusque donc au 7e siècle, l'âge d'or des pères de l'Église, où là la doctrine s'affirme et le dogme s'affine, et où on approfondit vraiment la divinité du Christ, l'enseignement sur la Trinité avec saint Augustin, saint Athanase, Basile pour l'Esprit Saint, saint Cyril d'Alexandrie pour la double nature du Christ, et j'en passe. Donc après, la théologie s'affine, mais là aussi, que de choses précises qui peuvent nous aider à bien connaître le Christ, à bien connaître le plan de Dieu. Donc les pères de l'Église sont vraiment une source intarissable pour approfondir notre foi et notre connaissance des Écritures. Donc comme vous le voyez, par les pères de l'Église, la tradition, bien loin de s'opposer à la Bible, l'enveloppe, l'entoure et se nourrit de la parole. Donc il ne faut surtout pas opposer tradition et parole de Dieu. Alors, je voudrais aussi commencer par une citation pour vous introduire les pères de l'Église. Citation de quelqu'un qui est une référence. Je veux parler de Bossuet. Quiconque donc veut devenir un habile théologien et un solide interprète des Écritures, qui lisent et relisent les pères. S'il trouve dans les modernes quelquefois plus de minutie, il trouvera très souvent dans un seul livre des pères plus de cette première sève du christianisme que dans beaucoup de volumes des interprètes nouveaux, et la substance qu'il y sucera des anciennes traditions le récompensera très abondamment de tout le temps qu'il aura donné à cette lecture. Alors, continuons. Alors, quelles raisons peuvent nous pousser à lire les pères de l'Église? Quel fruit peut-on retirer des textes des pères de l'Église? En fait, aucun homme ne peut se couper totalement de son passé, sous peine de renier son identité. Dans cette perspective, le passé n'est pas mort. Sa sève nous nourrit encore. Bien sûr, il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire, rejeter la paille et engranger le blé. Alors je voudrais pour ça vous parler, disons dans un premier chapitre, les pères sont nourris de l'écriture. Voilà, ça c'est ce que je voudrais vous montrer. Ils nous aident à lire l'écriture et à pénétrer les richesses de la révélation. Ils ont une étonnante connaissance de l'Ancien Testament. Les pères font leur le mot de Jérôme, Saint Jérôme, traducteur de la Bible en latin. Ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ. Qu'il s'agisse des catéchèses, l'enseignement très simple pour la formation des catéchumènes, des homélies ou des commentaires, des traités comportant des élaborations d'ordre philosophique ou théologique, des écrits apologétiques en vue de contrecarrer, de réfuter les hérétiques, ces élaborations s'appuient toujours avant tout sur l'écriture. Voyez ce que je vous disais, ne pas opposer la tradition, notamment les pères de l'Église en particulier, à l'écriture. Le remarquable, c'est que cet enseignement des pères, tout en se situant en continuité avec l'écriture abondamment citée, dépasse la seule lettre grâce à cette intelligence que donne l'Esprit Saint dans l'écriture, dans l'Église aussi. C'est particulièrement lumineux chez un homme comme Irénée de Lyon. Il se méfie de la spéculation, car il en constate les excès dans la pseudognose. C'est pourquoi il est habité du souci de se rattacher à la tradition, transmission des apôtres. Mais s'appuyant sur l'écriture, il en a une pénétration lui permettant de choisir des axes de lecture, de faire jaillir du texte son sens profond. Non seulement les pères nous stimulent par leur exemple à lire et à méditer la Bible, mais ils nous aident par leurs écrits à approfondir l'enseignement de l'écriture. Pour ne donner que quelques exemples, il est certain que quand on relit la première épître de Jean, par-dessus l'épaule d'Augustin, si j'ose dire, grâce à son commentaire, on y perçoit toutes sortes de richesses. On pourrait dire la même chose de ses commentaires des psaumes, d'ailleurs, qui sont absolument magnifiques. Notre saisie du sens de l'écriture se trouve enrichie grâce à la fréquentation des pères, qu'il s'agisse du sens littéral auquel notre sensibilité moderne est accoutumée, ou qu'il s'agisse du sens allégorique qui n'est pas forcément à dédaigner, quand on a lu un peu Origène ou Grégoire de Nice, dans leurs commentaires des livres de l'Exode, par exemple, ou des Nombres. Avec tout ce qu'ils évoquent du cheminement spirituel de l'âme, les textes reçoivent une profondeur incomparable. Dans ce domaine, c'est une question d'expérience à faire. Effectivement, précisons que, notamment Origène et tous ces pères de l'Église qui ont utilisé les clés spirituelles, notamment la clé dite tropologique, ont une approche des Écritures absolument moderne, qu'on redécouvre dans l'approche psychologique des Écritures. Donc, comme vous le voyez, lire les pères, c'est vraiment être à l'école d'une bonne interprétation des Écritures. Hein? Alors, ensuite, le deuxième point que je voudrais, après les Écritures, vous signaler par rapport aux pères, c'est que les pères ont une vision unifiée du mystère chrétien. Chez eux, tout consonne et converge. La pensée des pères est vraiment centrée sur le cœur même du message chrétien, à savoir le mystère trinitaire, l'incarnation du Sauveur, l'Église, communion dans l'Esprit Saint. Avec eux, tous les fondamentaux de la foi chrétienne se déclinent. Avec les pères, nous sommes d'emblée confrontés avec les grandes perspectives théologiques, trialogiques, diraient les orthodoxes, à savoir la théologie trinitaire, christologique, pneumatologique, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, ecclésiologique et eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Bref, toutes ces grandes perspectives qui sont proclamées dans les grands symboles de foi, celui dit des apôtres et surtout celui de Nicée Constantinople. Ces grands thèmes que l'on retrouve célébrés dans les anaphores, la prière eucharistique dans l'église d'Orient par exemple, dans le rite byzantin, l'anaphore de Jean Chrysostome de l'église d'Orient. Donc tout ça dans la liturgie orientale, dans les symboles des apôtres, c'est au Père de l'Église que nous devons. Et tous ces articles de foi qui nous semblent si abstraits eh bien, c'est par les pères de l'Église qu'ils peuvent reprendre vie et qu'on peut les comprendre de l'intérieur. Les pères ont donc une vision unifiée, parce qu'elle vient avant les développements qui ont parfois morcelé la présentation du mystère chrétien. Ainsi, lorsqu'ils parlent de justice sociale ou d'assistance aux pauvres, Basile ou Jean Chrysostome ont le souci de rattacher leurs enseignements au commandement d'amour du Seigneur, bien sûr, mais également à la dignité de l'homme comme image de Dieu. Et ces liens ne sont pas artificiels ou plaqués. Il s'agit vraiment de l'enseignement social reçu comme une conséquence même du mystère chrétien. On pourrait prendre d'autres exemples encore. Je pense à Maxime le Confesseur dans son discours ascétique. L'ascèse est vraiment resituée dans l'économie du salut, c'est-à-dire dans la stratégie du salut. Elle prend une dimension tout autre parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'image de Dieu en l'homme. Donc elle n'est pas perçue comme quelque chose de rébarbatif ou de bizarre. C'est là une chose que nous avons goûtée chez les pères de l'Église, cette vision unifiée du mystère chrétien. Cette manière d'aborder le mystère chrétien sous ses différents aspects, mais d'une manière profondément unifiée. Nous avons vraiment rejoint les pères de l'Église. Le troisième point, c'est que vraiment chez les pères, il n'y a pas de séparation entre doctrine et spiritualité. Voilà, donc c'est le troisième point que je voudrais vous montrer, vous faire partager. Donc ces pères nous apprennent à maintenir l'unité entre les deux, c'est-à-dire entre la doctrine et le spirituel. Pour ne parler que de l'Église latine, l'Occident médiéval a connu tardivement une espèce de sobornisation, donc la Sorbonne, de la théologie, donc une espèce d'intellectualisation de la théologie qui a abouti à une certaine séparation entre doctrine et spiritualité. La scolastique latine a introduit dans la théologie l'usage de la dialectique. Il suffit de prendre connaissance des débats entre Abélard et Saint Bernard pour mesurer combien cette entreprise a été risquée au XIIe siècle. C'est même très controversé. Bon, c'est sûr, la scolastique a certes porté des fruits admirables. Il suffit de penser à Saint Thomas d'Aquin ou à Saint Bonaventure. Ben, pourquoi ? Parce qu'il y a chez Saint Thomas d'Aquin et chez Saint Bonaventure un sens du mystère et un génie qui leur ont permis de se servir de la dialectique comme un instrument, sans se laisser asservir par la dialectique. C'est important en effet de pouvoir maîtriser l'instrument dont on se sert. Il s'en est suivi un authentique progrès de la réflexion théologique. Mais que l'on se souvienne du XIVe et du XVe siècle, cette introduction de la dialectique a abouti à des résultats déplorables à cette époque. Il existe un adage scolastique qui dit « corruptio optimi pessima », la corruption de ce qui est le meilleur engendre le pire. Avec cette période de la fin du Moyen-Âge occidental, on assiste à une certaine séparation entre la théologie et la spiritualité. Je dis bien séparation. Je ne critique pas la distinction entre les deux, elle est légitime. C'est la séparation qui est néfaste. Ben, quel a été le résultat ? La théologie, d'une part, s'est développée comme une sorte d'en-soi, de choses en soi, devenant une construction intellectuelle, rationnelle, extrêmement spéculative, plutôt desséchée. Et d'autre part, la spiritualité, coupée de ses bases doctrinales, a souvent viré dans ce qu'on a appelé la devotio moderna, dans une dévotion intimiste, dans un quiétisme sentimental, on pourrait dire un sentimentalisme débridé, coupé des écritures et du rationalisme. Chez les pères, il n'y a pas ce divorce. Pour les pères, le mystère trinitaire n'est pas seulement objet de foi proposé à notre intelligence croyante, il est vraiment le mystère d'une communion de personnes divines dans lequel nous devons entrer et vivre. C'est le dogme vécu au point que la vie chrétienne est trinitaire ou elle n'est pas. Il suffit de penser à Grégoire le théologien, Grégoire de Nazianze, qui est non seulement le théologien de la Trinité, mais le chantre de la Trinité. Il va jusqu'à dire « ma Trinité ». Et c'est important parce que à notre époque, la Trinité est devenue quelque chose de totalement étranger et desséché. Et si on relit les pères de l'Église, eh bien tous ces dogmes, tous ces fondamentaux reprennent toute leur vigueur, leur sève et leur saveur. Et effectivement, rien n'est plus revigorant qu'un vrai bain de jouvence à la lecture des pères de l'Église. Alors un autre exemple, cette fois en Occident, Augustin dans son traité sur la Trinité. Il faut voir comment son effort intellectuel est sous-tendu par une sorte de quête spirituelle qui se développe tout au long du traité. La fin du livre 15 est absolument magnifique. Elle en arrive à constater que toutes les analogies qu'il a pu découvrir restent bien en deçà du mystère trinitaire. Et il attend la vision bienheureuse pour pouvoir enfin connaître ce mystère. Il y a vraiment un lien entre théologie et spiritualité, théologie et prière. Ça me rappelle d'ailleurs une parole d'Origène. Quelqu'un lui écrivait pour demander ce qu'il fallait faire pour être théologien. Alors on se serait attendu à ce qu'il lui renvoie une bibliographie abondante. Eh bien, lui écrit, tu veux être théologien, deux points, prie. Voilà. Donc il y a vraiment chez eux une intégration de la vie spirituelle dans la réflexion théologique. On pourrait citer encore le mot d'Évagre le Pontique, père du désert, un homme devenu moine durant la deuxième moitié du IVe siècle. Et théologien, celui qui prie vraiment. Ça rejoint ce que disait Origène, avec la réciproque. Celui qui prie vraiment est théologien. Il y a vraiment une continuité vitale, profonde, entre le mystère cru et révéré par la foi, le mystère proclamé et célébré dans la liturgie et le mystère intériorisé dans la vie spirituelle de chacun. Le quatrième point que je voudrais partager avec vous par rapport au Père de l'Église, c'est que les Pères nous ouvrent par leur diversité à la catholicité, c'est-à-dire à l'universalité de l'Église. Une catholicité faite d'unité et de diversité, d'unité profonde au sein d'une réelle diversité. Il y a vraiment une diversité au niveau des mentalités et des cultures, d'où la pluralité des expressions de la foi au niveau des théologiens, des liturgies, des spiritualités, des disciplines. Les pères d'Occident ne sont pas les pères d'Orient, et l'Orient lui-même est diversifié. Antioche n'est pas Alexandrie, et Alexandrie n'est pas Byzance. Et l'Occident lui-même est également diversifié. La Gaule et l'Espagne ne sont pas l'Italie ou l'Afrique. Il y a un très beau texte d'Irénée de Lyon au livre 1 de l'Adversus Hérésiis, c'est-à-dire son traité contre les hérésies, dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, où il considère l'Église et la diversité des peuples qui en font partie. Il part de la Germanie des Celtes, c'est nous, et des Ibères. Il envisage l'Orient, l'Égypte, la Libye et puis le milieu du monde, c'est-à-dire l'Italie et la Grèce. Et Irénée de s'émerveiller parce que c'est bien une même foi qui unit ces peuples si divers. Car si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique. Et ni les églises établies en Germanie n'ont d'autres foi ou d'autres traditions, ni celles qui sont chez les Ibères, ni celles qui sont chez les Celtes, ni celles de l'Orient, de l'Égypte, de la Libye, ni celles qui sont établies au centre du monde. Mais de même que le soleil, cette créature de Dieu, est un et identique dans le monde entier, de même, cette lumière qu'est la prédication de la vérité brille et illumine tous les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la vérité. Et ni le plus puissant discours parmi les chefs de l'Église ne dira autre chose que cela, car personne n'est au-dessus du maître, ni celui qui est faible en parole n'amoindrira cette tradition. Car la foi étant une identique, ni celui qui peut en disserter abondamment n'a plus, ni celui qui n'en parle que peu n'a moins. Il faut être sensible à la fois à la diversité des pères et à l'unité profonde. Le contact avec les pères d'Orient et d'Occident apprend à ne pas identifier la foi avec un certain langage qui reste toujours partiel et limité. On le voit en Orient au Ve siècle entre Antioche et Alexandrie. Il y a effectivement de grandes difficultés d'entente, évidemment, entre occidentaux et orientaux. Il y a également de grandes difficultés à s'entendre sur des questions de terminologie trinitaire. C'est Grégoire de Nazianze qui notait « Il est inconvenant de se quereller comme si notre piété se trouvait dans les mots et non dans les réalités. Il est extrêmement profond de savoir que parfois nous n'utilisons pas les mêmes mots mais que nous désignons les mêmes réalités ou que parfois nous utilisons certes les mêmes mots mais pour désigner des réalités différentes. Avec les pères, nous apprenons à ne pas identifier la foi avec une tradition particulière marquée par une culture. » On insiste dès l'époque des pères à une certaine séparation entre l'Occident latin et l'Orient grec byzantin. Et l'on voit combien ces questions de culture et d'histoire peuvent conditionner les théologies. L'étude des pères apprend à percevoir l'unité qui peut exister à l'intérieur de formulations différentes. Il nous donne une certaine ouverture d'esprit, un sens de ce qui est essentiel, bref, un sens de l'œcuménisme. Ce qui m'amène au cinquième point. La pensée des pères présente un grand intérêt du point de vue de l'œcuménisme. Il est évident que la pensée des pères présente un grand intérêt dans le dialogue, par exemple, avec l'orthodoxie. Il est important pour nous de connaître les pères grecs. La connaissance des pères latins et grecs constitue une bonne base pour le dialogue à l'intérieur de la tradition occidentale. Le catholicisme des pères est plus acceptable pour le protestant que le catholicisme médiéval ou post-tridentin. Les protestants retrouvent chez les pères des valeurs catholiques non durcies, si j'ose dire, par la période médiévale, la théologie scolastique ou par la contre-réforme. Les anglicans peuvent trouver chez les pères une via media, entre les excès du catholicisme romain, parfois, et du protestantisme continental. Et enfin, le sixième point, les pères sont des témoins privilégiés de la tradition de l'Église, ce que je disais déjà. Le père Congar aime à dire que les pères sont des organes ou des témoins privilégiés de la tradition de l'Église. Pourquoi sont-ils des témoins privilégiés de la tradition de l'Église? Parce qu'ils ont vécu une période capitale, comme je le disais, une période unique de la tradition de l'Église. Si l'on prend la comparaison avec un bouton de fleur, on peut dire que la période des pères de l'Église représente la période de l'éclosion. Tout est déjà donné, instauré par la venue du Christ, par son œuvre salvifique prolongée par la mission des apôtres et par l'édification de l'Église. Tout est déjà donné, mais il y a éclosion. Du point de vue doctrinal, c'est la formulation par les pères des dogmes trinitaires et christologiques. Éclosion du point de vue liturgique, c'est à cette époque que se constituent les différentes liturgies, les différentes familles liturgiques. Éclosion du point de vue ecclésiologique. Les structures ecclésiales se mettent en place avec les conciles provinciaux, œcuméniques, etc. C'est aussi à cette époque, donc, que cette éclosion ecclésiologique, je vais y arriver, c'est aussi à cette époque, donc, que se définissent plus clairement le rôle du pape et des évêques. Éclosion du point de vue de la vie religieuse. On sait comment les moines prennent le relais des ascètes et des martyrs lorsque se termine la période des persécutions. Et enfin, éclosion du point de vue de la discipline. Toutes les collections de canons se constituent et vont réglementer la vie de l'Église et des monastères. Les pères qui ont vécu à cette époque ont été les instruments de cette éclosion. Les pères de l'Église apparaissent comme un patrimoine de l'Église unie, indivise, avant tous les schismes qui vont se produire, les divisions. Une base pour un dialogue théologique. Il ne faut pas trop presser ce terme de l'Église indivise. C'est vrai, parce que dès le 4e ou 5e siècle, il y a eu des divisions. Par exemple, l'Église de Perse au 4e siècle, ceux qui au 5e siècle refuseront les décisions du Concile de Chalcédoine. Mais malgré tout, les pères ont vécu à une période où l'Église était fondamentalement unifiée. Ainsi, nous avons tous en commun, protestants, catholiques, orthodoxes, les pères. Il existe un rôle de paternité spirituelle des pères de l'Église. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle pères de l'Église. Ils sont source d'une véritable fratrie, fraternité. Le père Congar définissait brièvement la paternité spirituelle comme le fait d'engendrer des frères dans la vie spirituelle, dans la vie de foi. Les pères jouent ce rôle aujourd'hui encore à notre égard. À leur contact, on peut vraiment puiser un sens de l'Église, de la foi de l'Église, de la tradition. Voilà. Je voudrais maintenant passer à un autre aspect plus pratique. Parce qu'il ne faut pas négliger quelque chose. Quand vous mettrez, ou si vous mettez, je le souhaite que vous mettrez un jour, à lire les pères de l'Église, ils ont, même si leur langage, comme on disait tout à l'heure, est signe d'œcuménisme, et ils nous montrent qu'une tradition ne doit pas être prisonnière d'une culture, ils ont quand même une langue et une façon de parler qui nous est assez étrangère. Donc il y a, on pourrait dire, 10 commandements qu'il vous faut respecter si vous voulez vraiment tirer profit de vos lectures des œuvres des pères de l'Église. Donc, le premier commandement, lire leurs œuvres. Mieux encore, de lire les œuvres complètes, pas simplement les extraits. Bon, mais il n'est pas nécessaire de lire énormément, mais de lire à fond afin d'entrer sérieusement dans la pensée d'un auteur. Il existe de bonnes traductions des œuvres essentielles. Celles et ceux qui ont accès au texte original n'hésiteront jamais à s'y référer. Donc je le répète, donc lire les œuvres, des œuvres complètes, bien choisies, ne pas tout lire, mais lire à fond. Essayez vraiment de faire l'effort de comprendre et d'entrer dans la pensée du Père, de l'Église. Ensuite, ne pas faire violence au texte. L'anachronisme menace sans cesse le lecteur toujours empêtré dans des histoires et des problématiques qui sont les siennes et non pas celles de l'auteur. Il nous faut être bienveillants à l'égard de l'auteur et consentir au dépaysement. Voilà, cette bienveillance et ce consentement au dépaysement sont effectivement des garde-fous très efficaces pour ne pas mal comprendre les pères de l'Église. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire aussi pour lire la Bible. Il faut vraiment rentrer dans la mentalité de l'époque et de l'auteur pour bien le comprendre et ne pas faire de contresens. Ensuite, prendre acte que les pères n'ont pas réponse à tout. Ils sont précieux, non pas d'abord parce qu'ils savent, mais parce qu'ils témoignent d'une manière conforme à l'Évangile d'aborder la vie et ses questions. Le quatrième commandement, ne pas gommer les différences, voire les contradictions qui se manifestent dans leur position doctrinale. Il n'existe pas une théologie, mais de multiples théologies chez les pères. Cela va m'amener tout à l'heure à vous parler d'un autre critère, parce que j'avais dit qu'il y avait trois critères pour définir un père d'Église, le fait que ce soit un écrivain ecclésiastique, son antiquité, mais je n'ai pas parlé du troisième critère, qui est un témoin autorisé de la foi. On verra ça plus tard. Mais sachez qu'il y a des diversités de théologie chez les pères, il n'y a pas une unité, une uniformité, mais il y a une unité. Mais ne pas chercher l'uniformité. Il y a des contradictions qu'il ne faut pas chercher à gommer. Unité, mais non pas uniformité. Cinquième commandement, éclairer les textes par les lumières que peuvent apporter les sciences humaines et historiques, la patrologie. Un petit peu comme l'exégèse pour la Bible. La patrologie étant la science de l'étude des pères de l'Église. Sixième commandement, ne jamais oublier que la confession de foi en Jésus ressuscité est le ferment de toute la littérature patristique. L'on ne peut, sous peine d'incompréhension ou de compréhension fausse, faire abstraction de cette foi lorsqu'on étudie les pères. Pour eux, le Christ est le centre de tout. C'est d'ailleurs ce qui devrait être notre propre foi. À cet égard, les pères sont aussi un exemple pour nous. Ensuite, septième commandement, gardez à l'esprit que les pères ne cherchent pas d'abord à élaborer de brillantes constructions théologiques, mais à transmettre la foi que les générations chrétiennes successives ont reçue des apôtres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont les témoins privilégiés de l'époque des apôtres. Parce qu'ils transmettent quelque chose qu'eux-mêmes ont reçu jusqu'aux apôtres. Ils ne cherchent donc pas à imposer leurs opinions personnelles, mais à expliciter la foi de l'Église. Huitième commandement, ne pas instrumentaliser les pères. Ils ne nous ont pas légué un arsenal théologique, mais une foi, une manière de faire de la théologie, qu'il nous faut solliciter comme une instance critique dans l'élaboration de notre propre réflexion théologique, et qui peut nous aider à mettre au jour des présupposés dont nous n'avons pas nécessairement conscience. Ils nous aident dans notre lecture de l'Écriture, par exemple, mais ils ne se substituent pas à notre lecture de l'Écriture. Ils nous donnent des pistes. Neuvième commandement, lire et relire sans cesse l'Écriture que les pères ont lue et relue à la lumière de la résurrection de Jésus. C'est en elle qu'ils ont rencontré et contemplé le Christ. Comme tout à l'heure, je disais, le Christ pour les pères est le centre de l'Écriture, est le centre de leur foi. C'est ainsi qu'il nous faut lire les Écritures. Là aussi, nous avons beaucoup à apprendre des pères. Et enfin, le dixième commandement, se souvenir de ce que les pères de l'Église sont des pasteurs très attentifs à leur peuple avant d'être des brillants théologiens. Voilà. Et en conclusion, je voudrais vous dire que les pères, donc, je voudrais insister là-dessus, ne sont pas des théoriciens de la foi, des penseurs qui cherchent à échafauder un système théologique. Ce sont des théologiens qui cherchent à rendre compte du salut qui les affecte en Jésus-Christ. Leur parole est nourrie de cette expérience de libération. Ils cherchent à retraduire cette dernière à partir des Écritures et de la réalité culturelle qui est la leur. À la suite des apôtres, ils écrivent les premières lignes du grand livre de la théologie chrétienne. Ils ont toute l'attitude pour forger les mots qui rediront le mystère de la foi. Rien ne les contraint, si ce n'est la réalité du salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour que les hommes aient la vie en abondance. Ils sont les premiers à traiter de questions proprement chrétiennes. Le Fils et le Père sont-ils de Dieu? Qu'est-ce à dire que le Père est plus grand que le Fils? Comment préserver la majesté de Dieu? Comment le Fils peut-il être à la fois Dieu et homme? L'Esprit Saint-il Dieu? Etc. Ces questions sont encore les nôtres. Peut-être les Pères nous aideront-ils à forger nos propres réponses, des réponses conformes à l'Évangile. Comme je l'ai dit, c'est dans cette mesure que les Pères sont d'une actualité surprenante. Parce que dans notre monde qui perd sa culture biblique et sa culture chrétienne, eh bien, se font jour des opinions tout à fait farfelues auxquelles les pères ont eu tout loisir et ont passé beaucoup de temps à répondre. Et en les lisant, nous pouvons nous aider à façonner nos propres réponses par rapport à ces questions fondamentales que nous posent de nouveau les gens. Pour qui ça ne va plus de soi, le Père et le Fils, deux dieux, un dieu, qu'est-ce que c'est la Trinité, l'Esprit Saint? Tout ça, c'était des choses que dans les siècles passés, on recevait comme étant des choses à croire et on ne se posait pas de questions. Maintenant, de nouveau, on est dans une période où les gens se posent des questions, élaborent des hérésies parfois des bêtises, des contre-vérités, et les pères de l'Église sont comme un prolongement des apôtres par rapport à des questions de théologie fondamentale qui ne s'étaient pas posées à l'époque des apôtres. Mais comme ils sont aux racines de la tradition, comment dire, leur propre théologie prend racine dans le témoignage des apôtres, notamment les pères apostoliques, et puis après il y a les pères, comme je l'ai dit, apologiques, et puis enfin les pères de l'âge d'or. Eh bien, à travers cette succession dans la tradition, les racines remontent jusqu'aux apôtres. Et ils sont comme une actualisation de l'enseignement des apôtres par rapport à ces grandes questions qui se font de nouveau jour aujourd'hui. Voilà. Alors, le dernier point, je vais pas vous faire une biographie de tous les pères de l'Église, loin de là, je vais vous citer quelques noms. Je voudrais aussi vous signaler que ce que je viens de faire, j'ai oralement apporté des précisions, mais le gros est une lecture de quelque chose qui se trouve sur mon site internet, donc vous pourrez l'imprimer. Il vous suffit d'aller sur le plan du site et voir Père de l'Église, et vous pourrez imprimer, vous aurez la version en gros écrite. Bon, il y a quelques petites choses que j'ai rajoutées oralement. Mais sachez que, donc, je disais, il y a trois critères pour reconnaître un père de l'Église, le critère de l'ancienneté, le fait que ce soit un écrivain chrétien, et il y a aussi qu'il soit un témoin autorisé de la foi. Alors, c'est le point le plus difficile à préciser. Bon, en effet, c'est l'Église, dans son magistère, qui doit définir qui est témoin autorisé de la foi, bien sûr. Mais à la différence des docteurs, il n'existe pas de liste officielle de pères. Il suffit que l'approbation ecclésiale soit implicite. On pourrait dire que le critère vaut plutôt négativement. Par exemple, un évêque comme Fos de Ries, 5e siècle, qui a sombré dans l'hérésie, ne peut être reconnu comme père de l'Église, bien qu'il soit un auteur ecclésiastique de l'Antiquité chrétienne. Donc en principe, l'orthodoxie de la doctrine et la sainteté de la vie sont requises pour faire partie des pères de l'Église. Bon, toutefois, on notera deux exceptions de taille, Tertullien, mort en 215, et Origène en 253, donc, qui ont, vers la fin de leur vie, erré. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas canonisés. Mais l'Église les considère comme pères parce qu'ils ont tellement apporté, je pense notamment à Origène dans sa façon d'interpréter la Bible, qu'on lui a en quelque sorte pardonné ses errements de la fin de sa vie, surtout que ses errements sont surtout ceux de ses disciples. Donc voilà. Alors, si vous voulez des biographies des pères de l'Église que je vais citer, pareil, il suffit d'aller sur la version écrite, donc plan du site, Père de l'Église, et vous trouverez des biographies de ces pères. On divise généralement les pères en pères latins et en pères grecs. Donc les pères latins, c'est l'Occident, si vous voulez, les pères grecs, c'est la Grèce, l'Empire byzantin. Donc il y a bien sûr Saint Ambroise, Saint Athanase d'Alexandrie, Saint Augustin, je vous cite les plus connus, hein, Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire de Naziance, Saint Irénée de Lyon, Saint Jean Chrysostome, Saint Jérôme, donc Saint Justin que je citais tout à l'heure, Saint Léon le Grand, Origène, Saint Pierre Chrysologue, nous avons enfin Tertullien, bon, et d'autres hein, encore. Hein. Donc, comme vous le voyez, cette liste est loin d'être exhaustive, donc je vous conseille d'aller consulter leur biographie sur le site donc www.prieresansaccent.org et rendez-vous sur le plan du site à la page Père de l'Église. Donc j'espère que cette petite introduction vous aura aidé sur cet aspect fondamental de la tradition que sont les pères de l'Église.